Lors de la précédente séance, nous avons parlé du péché. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la miséricorde et du pardon. Dans un premier temps, nous verrons que le pardon est un don gracieux. Puis nous évoquerons le pardon de Dieu dans la Bible. Enfin, nous approfondirons deux exemples, tirés de la Bible, la femme adultère et l'enfant prodigue. Premier point. Le pardon, un don gracieux qui ouvre un avenir. Le Larousse donne la définition suivante du pardon. Fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, rémission d'une offense. Le Notre Père d'autrefois parlait de remise d'une dette. Remets-nous nos dettes comme nous remettons aussi à ceux qui nous doivent. Lorsque nous commettons une faute, nous sommes débiteurs à l'égard de l'offensé. Dans le cas d'un mensonge, nous devons la vérité. Dans le cas d'un vol, nous devons le bien volé. Dans le cas d'un adultère, nous devons la fidélité. Dans le cas d'un crime, nous devons la vie. Dans ces deux derniers exemples, nous constatons une impossibilité. La gravité de la faute nous fait prendre conscience que nous ne pourrons jamais restaurer le passé tel qu'il était avant la faute. Nous sommes insolvables. Certaines conséquences sont irréversibles. Ainsi, il est impossible d'effacer de la mémoire une infidélité ou de rendre la vie. Le pardon se situe à un autre niveau que la restauration littérale d'un passé ou le paiement d'une dette. Soulignons aussi que le pardon n'est pas d'ordre juridique et ne supprime pas les éventuelles condamnations civiles et pénales. Le pardon n'est pas non plus de l'ordre de l'oubli. Le pardon ouvre un avenir en proposant une voie de guérison intérieure au regard de la culpabilité ou de la vengeance. Cet acte exige un temps à la mesure de la gravité de la faute et de ses conséquences. Un pardon qu'il n'est pas possible de donner aujourd'hui le sera peut-être demain. Poser sa main sur une blessure trop vive provoque le réflexe tout à fait humain de se retirer afin de se protéger de la douleur. Le pardon est dépassement de la faute pour s'intéresser à la personne. On ne pardonne pas la faute, on pardonne la personne. Lorsque le pardon aboutit suite à une faute, autant l'acte est condamnable, autant la personne est pardonnée. Le pardon ne signifie pas que nous éliminons les conséquences de la faute dans la vie des gens. Elle signifie que nous les aidons à traverser les conséquences afin qu'ils puissent marcher sur la voie de la guérison. Ainsi, le pardon prend date dans l'histoire de chacun. Je voudrais citer ici Vladimir Yankelevitch. Le vrai pardon est un événement daté qui advient à tel instant du devenir historique. Le vrai pardon, en marge de toute légalité, est un don gracieux de l'offensé à l'offenseur. Le vrai pardon est un rapport personnel avec quelqu'un. Le remords est un soliloque, mais le pardon est un dialogue entre deux partenaires dont l'un attend quelque chose de l'autre. Le pardon est donc une voie de salut. Alors comment la Bible nous parle-t-elle de cette voie ? Deuxième point, le pardon de Dieu. Dans une perspective religieuse, le pardon renvoie à l'initiative de Dieu qui fait miséricorde et recrée une relation nouvelle. La demande de pardon est une prière d'abandon. Nous y sollicitons la miséricorde de Dieu. Le qualificatif miséricordieux désigne tout à la fois la compassion, le pardon et la relation fidèle. L'hébreu utilise le mot rahaim pour parler de la miséricorde. C'est un pluriel qui signifie entrailles, nous l'avons déjà vu. Les Hébreux considéraient que les entrailles sont le siège des sentiments et des émotions. La miséricorde apparaît alors comme l'attachement d'un être à un autre et surtout l'attachement qui unit Dieu à l'être humain, comme si c'était